J'y vais le pod numéro 107. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de JV Le Pod. On va s'intéresser au numéro 107 de JV, numéro de avril-mai 2024. Autour
c'est
de
vrai.
Cette table.
C'est vrai, avril-mai.
Autour de cette table, des invités exceptionnels.
Bien sûr.
Toujours. Alors évidemment, Kevin Bitterle,
oui,
rédacteur en chef.
Allez hop.
Avec des majuscules passe. Partout. Il y a aussi Christophe Butley, il est là tout le temps.
C'est moi, oui. Bonsoir. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bah, tu dis les deux.
Et aujourd'hui, un invité encore plus exceptionnel. Alexandre Mutoni, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Oprime aussi, c'est comme ça qu'on t'appelle.
Sur Internet.
Sur Internet. Tu as fait la couverture de ce numéro.
Tout à fait.
Et du coup, bah, tu vas venir en parler avec nous, on t'a obligé.
Et bah, c'est un honneur.
Oh là là.
Oh
on est tous très contents.
Ben oui, non, mais c'était important parce que bah, c'est une couve. C'est une couve un peu spéciale, hein.
C'est
une couve audacieuse. Moi, j'ai envie de l'appeler audacieuse. Donc, on va en parler. Donc, c'est une couverture en hommage à Akira Toriyama qui nous a quitté. C'était quand? C'était fin mars. Ouais. Début mars. Oui, oui, parce que effectivement, il y a eu tout ce mois où nous, on n'avait pas pu en parler dans le 106, et du coup, on a décalé au 107. Et bah, juste pour avant de parler peut-être du dossier, comment on l'a articulé, je vais te poser des questions, mon cher Opri. Moi, je suis venu te voir en te disant on a en projet de faire une couve hommage à Akira Toriyama. Est-ce que ça te parle? Et effectivement, la première question, c'était bah, ça représentait quoi pour toi, Akira Toriyama?
Eh ben, c'était... Parce que moi, je m'étais dit que j'arrêtais de prendre des commandes.
Je sais, tu me l'as dit. Tu me l'avais dit.
Mais vous trouvez toujours le moyen, quand même, globalement, de passer sur le côté. Et là, c'est vrai que, bah oui, moi, c'est le seul auteur qui comptait, en fait, à mes yeux. Parce que moi, depuis... Donc, j'ai 36 ans. Et en fait, il n'y a aucun décès qui m'avait jamais vraiment affecté dans les célébrités, tout ça. Et donc, je m'étais toujours dit que j'étais un peu insensible quoi, à ce genre de choses. Et puis, ouais, celui-là, non, quoi, ça m'a vraiment fait quelque chose. J'en avais parlé avec Atomium, entre
autres.
En disant, putain, en fait, c'est ça que les gens ressentent quand ils sont touchés par certains artistes. Et là, ouais, bah enfin, lui,
c'est
ouais, ça
Kurt compte.
Ouais. Ouais, bah ouais. Ouais, ou mon Jacques Chirac.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'au niveau des artistes, moi, je me pose souvent la question, tu vois, lequel artiste en vie me procurerait, enfin, sa mort me procurerait vraiment un truc, un sentiment de vide. C'est vrai que...
Tu l'as jamais vécu?
Sur un artiste, non. Il y a quelques... Alors, c'est un artiste dans son genre, mais il y a un basketteur, Kobe Bryant. En plus, une mort soudaine, un crash d'hélicoptère et tout, c'était vraiment, enfin, ça a vraiment fait un effet très, très puissant.
C'est ton balavoine, du coup.
Bah, du coup, ouais. Mais non.
Je vais faire que des vieilles références, hein. Laissez-moi tranquille.
Non, là, j'en ai pas, là, comme ça, qui me viennent.
Bah ouais, on le voit pas venir en vrai, parce que j'aurais pas pensé à ça quoi.
Bah surtout en plus on rappelle que dans la culture au Japon, on annonce en plus les décès souvent plusieurs jours, semaines, voire le temps de laisser la famille gérer tout ça, et l'annonce publique est rendue plus tard. Et du coup il s'était passé je crois une semaine ou 10 jours entre le moment où il est mort et l'annonce publique. Et du coup bah, y a quelque chose en plus... là où personne n'était préparé, c'est pas comme si voilà, on savait qu'il était malade ou quoi que ce soit. Donc effectivement, ça a fait un choc et on a vu un raz-de-marée immédiatement sur les réseaux. Je pense que bah, toi en tant qu'artiste, il y avait aussi la proximité au niveau de l'art. Moi, c'était plus voilà, des souvenirs de pur spectateur. Moi, j'ai absolument pas la fibre artistique. Mais,
Si, Kevin.
Non. Mais par exemple, par rapport à toi, à ta carrière, à la manière dont tu envisages la création, c'est quoi le truc emblématique chez lui qui a pu t'inspirer ou que tu as essayé de reproduire peut-être ?
Ah mais c'est ça l'histoire, c'est que toute mon enfance, je faisais que reproduire.
Ouais.
J'ai encore maintenant... Ah mais j'aurais dû les ramener, j'ai des valises de dessins de quand j'avais 5 ans, 10 ouais. ans, 25... De reproduction des pages du manga.
Pages du manga, ouais.
Ouais, ouais, et j'étais complètement omnubilé. Donc, il y avait déjà à l'époque d'autres mangas.
Ouais.
Mais c'est vrai que j'étais complètement bloqué, fasciné par Dragon Ball, et j'ai noirci les rames de feuilles d'imprimante, là.
Ouais, bah ouais.
Et je faisais que ça. Et en fait, l'expérience de cette couve, parce que du coup, je m'étais évidemment plus amusé à refaire du Toriyama.
Depuis l'enfance, ouais.
Et en fait, du coup, ouais, peut-être que c'était une question plus tard, mais ce qui s'est passé quand
j'ai dessiné,
la révélation de « Ah, mais en fait, c'est la colonne vertébrale de mon style de dessin,
ouais.
de mon trait. » Et du coup, je pensais faire comme je fais toujours dans mon métier, dans ces commandes-là, c'est de... Je me fais des mood boards
ouais.
du style du mec ou de la meuf, et je regarde...
Ça prend quelle forme
bah, je vais aller piocher
pour un profane,
dans
le truc. Ouais.
Là, par exemple, voilà, le brief, c'était un
ouais.
hôtel.
Ouais, moi, ce que j'avais dit, effectivement, c'était ça, c'était... Enfin, c'est ce que je visualisais, de faire une sorte d'hôtel funéraire avec, voilà. Avec le portrait, la caricature au centre, son nom, et après... À toi de voir au niveau des éléments pour enrichir ouais. un peu l'illustration.
Voilà.
Voilà, c'était le brief.
Et du coup, bah, vu que je savais qu'il y aurait un petit peu d'archi, entre guillemets, avec l'objet de l'hôtel,
ouais.
Le portrait, donc il fallait évidemment des visages, comment il les faisait à une certaine époque. Et puis, ouais, voilà, les différentes composantes un peu emblématiques, donc les Dragon Ball, la casquette, tout ça. Donc, je me fais un mur
ouais.
Où je vais piocher
d'accord.
avec, par exemple, typiquement, la tour Karine, là, le palais de Karine, tout ça. Donc, je fais des screenshots où je récupère des bouts de cases. Je me les dispose, comme les trucs de FBI. Là, tu te
ouais,
fais ton
d'accord,
mur.
Tu te fais un mur, ouais.
Voilà, tu te fais ton mur. Donc, on appelle ça un mood board.
D'accord,
parce qu'il
okay.
y a l'ambiance générale.
Ouais, tu t'imprègnes du truc, quoi.
Voilà, et du coup, tu... Et donc, quelques visages, quelques machins. Et... Observation, comment il va hachurer, comment il fait ses ombres, est-ce qu'il fait des ombres portées ou pas, est-ce qu'il fait, voilà, comment il va hachurer pour faire de la texture pierre, comment il va faire la texture du sol, comment il fait ses nuages. Donc, je regarde, je fais ok, machin, et donc normalement, il y a toute une phase où on essaye de s'approprier ce trait-là, ces techniques-là. Et d'ailleurs, c'est chambé parce que tu t'en apprends des nouvelles. Tu dis, ah bah tiens, c'est vrai qu'on peut faire un buisson comme ça. On peut faire une ombre comme ça. Et ça, normalement, c'est assez long parce que des fois,
ouais.
c'est très loin de ta sensibilité. Et puis.
Et c'est là que tu t'es rendu compte qu'en fait.
Mais là, mais il n'y a pas eu cette phase.
Ouais, c'est
fait.
Ça. Ouais.
Et du coup, dès que j'ai commencé à le faire, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je fais moi.
Ouais.
Et là, d'un coup, je me suis dit, ah mais c'est fou parce que 30 ans plus tard, finalement, évidemment qu'on évolue, évidemment que je me suis. Familiarisé avec d'autres sensibilités, tout ça, mais en fait, l'ADN, enfin, vraiment le corps de mon style, bah, c'est le sien. Du coup, ça m'a fait bizarre, quoi. Ça a été une expérience assez, assez bizarre, parce que déjà, il y avait toute la partie deuil, enfin, c'est même bien grand mot, hein, j'ai même pas pleuré, mais il y avait un truc un petit peu de vide, un sentiment de vide.
Ouais, ça s'entend.
Ouais. Bah, un petit peu, ouais, père spirituel, quoi. Parce qu'en plus, j'étais un gamin très, très... Alors, j'en ai parlé à ma psy, j'en ai parlé à ma mère. J'ai eu le temps d'y réfléchir. Mais en gros, j'étais un gamin assez dans sa tête, un petit peu isolé, un petit peu indépendant, tout ça. Ce qui n'était pas facile pour ma famille. Donc, je m'enfermais vachement dans ma chambre à lire, à dessiner... Et en fait, bah finalement, je me suis inventé une espèce de lien quoi, avec cet artiste, puisque après, toute ma vie, j'ai relu, et j'ai tout ce qu'il a fait sur mes étagères, tout ça, mais sans vraiment en avoir conscience. Parce que même quand on me demandait quel artiste, ça te ferait bizarre et tout, j'y pensais pas, je me disais pas que Toriyama, ça me ferait quelque chose. Et pourtant, en fait, bah, tu sais, cette logique de quand il n'est plus là, merde, tu te rends compte que...
Ouais, ouais, quelle influence il a pu avoir, etc.
Et ouais. Donc, j'ai passé des heures, parce que je voulais que ça ait de la gueule. Donc, j'ai passé des heures à faire du détail, à faire des petits trucs. Puis c'était marrant parce que Je me suis quand même perdu des fois, je faisais des effets d'ombre pour que ça ait un peu du style, pour qu'il y ait des machins. Puis en fait, lui, il n'en fait pas, donc je revenais en arrière, je me disais non, je veux être fidèle au mec. Et petit à petit, donc normalement, j'écoute de la musique, je mets des films derrière et tout, mais là, j'étais dans ma tête, j'étais dans mon truc. Et ouais, ça a été une expérience étonnante. C'est comme un petit truc un peu méditatif, quoi.
Ah bah, écoute.
Voilà.
Au niveau du process, donc effectivement, on a parlé du brief initial. Effectivement, moi, je t'avais juste montré genre des images un peu d'hôtel et tout. Après, toi, t'es parti sur quelque chose de plus céleste aussi. Et c'était ça, c'était le côté Tourcarine que tu voulais un peu reproduire ou?
Ouais. Au début, quand j'avais juste fait un hôtel et tout, je trouvais ça un petit peu gratuit, tu sais, un petit peu loin de son univers.
Ouais.
Genre, il manquait un petit peu de... Et puis, en fait, en commençant à disposer les éléments, je me suis dit, ah, ce serait bien qu'il y ait quand même un peu de texture sur le sol, donc quel sol je peux mettre. Donc, ah, tu dis, ah, ben tiens, il a fait ça là. Et puis, en fait, en allant piocher dans son œuvre, c'est dessiné assez naturellement cette ambiance-là, quoi. Parce que c'est vrai qu'il fait des grosses masses nuageuses comme ça.
Ouais.
Donc ouais, ça s'est fait un peu naturellement. Et ouais, en fait, quand tu t'arrêtes un petit peu, parce qu'en plus, j'avais jamais porté ce genre de regard sur les décors.
Ouais.
En général.
Oui, c'était plus les persos, toi, t'étais.
Comme ça. Ouais. Et là, c'était cool parce que vraiment, je me suis arrêté. C'est vrai qu'il est. Il est malin, quoi. Parce que j'avais déjà entendu qu'il était un peu feignant.
Qu'il se débrouillait toujours. On va y revenir, je pense. Voilà.
Donc, j'ai un peu vu pourquoi. Parce que c'est vrai qu'il est malin. Il va combler un décor en faisant trois petits ronds, machin. Puis hop, tu comprends qu'il y a des nuages. Et c'est vrai que du coup, sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé avec cette compo-là, sans trop y réfléchir.
Et donc, le truc, on en parlait juste avant de lancer le rec, parce que c'était un moment assez drôle. C'est vrai qu'il y a eu un quiproquo donc, dans cette production, et c'est un quiproquo... Alors, pour tout expliquer, donc tu te lances dans le dessin. On en avait un peu briefé via Discord, un soir... au bar.
Oui, bah oui, vite toujours. Fait, hein.
Mais on n'en avait pas discuté vraiment. Enfin, voilà, on s'était... Alors, moi, déjà, j'ai aucune expertise, donc je peux donner des idées, mais je vais pas commencer à chouiner sur des détails parce que j'y connais rien. Mais voilà, on avait eu cet échange-là. Et puis, arrive un week-end où donc, tu nous envoies en fait, des versions de plus en plus abouties. Et à un moment, Sophie me fait... mais au fait, il y aura de la couleur ou pas? Et puis moi, je me dis, ah oui, c'est vrai, ça, on n'en a pas forcément discuté. Mais je pense que oui, enfin, je sais pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ma compagne fait aussi de la BD, enfin, est scénariste pour de la BD, et je sais qu'il y a vraiment ce processus de faire vraiment le storyboard, le noir et blanc, et la colorisation arrive dans un dernier temps. Donc moi, j'étais un peu dans cette idée-là, que la colorisation arrivera à la fin. Et arrive une nouvelle version, toujours en noir et blanc, et là, je te pose la question, effectivement, maladroitement, où je te dis, ça va aller, la colorisation?
Oui, voilà, t'as pas demandé.
Mais oui, c'est ça. En fait, je sais pas pourquoi je t'ai posé la question comme ça. Et là, donc, j'ai eu une réponse avec beaucoup de majuscules. voilà. J'espère que tu plaisantes. Tu dis... Et ce à quoi j'ai tout de suite répondu, non, mais c'est très bien, en fait, c'est vrai que ma question était maladroite, j'aurais juste dû demander, en fait, on est bien d'accord que c'est en noir et blanc, voilà, j'aurais dû le dire comme ça. Bon, tu m'en veux encore?
Non, mais en fait, le j'espère que tu plaisantes, c'était pas agressif, c'était vraiment premier degré, je suis en train d'espérer que c'est une plaisanterie, parce que j'avais eu le temps de me faire à l'idée de cette illustration full hommage au manga, en fait. Et du coup... dès le début, je me suis dit, ah, ça va claquer, ça va être vraiment... Parce que Toriyama, c'est quand même le manga.
Bien sûr.
Le pilier de sa carrière. Et du coup, et en plus, dans votre production, dans toutes vos covers depuis toujours, je trouvais que c'était charmé, un vrai stop sur le côté. Là, c'est une page de manga. En plus, le noir, c'est un peu la couleur du deuil, tout ça. Je me suis dit, mais ça va vraiment marquer un truc. Quand on va voir un peu l'historique des covers et tout, ça va vraiment être le truc.
Carrément, ouais.
Et du coup, j'étais trop content. Et en plus, voilà, je pensais déjà à mettre les onomatopées pour faire vraiment très manga, très casse de manga, quoi.
Fayot.
Et du coup, évidemment, bon, je suis bien payé, mais j'avais explosé le temps de travail alloué à cette commande-là. Et là, je me suis dit, non seulement ça me rend trop triste de mettre la couleur parce que je m'étais fait à cette idée-là, et en plus... Et en plus, je repars sur des heures et des heures de boulot.
Donc, non, non, non.
Donc, j'ai eu peur, mais c'était...
C'est
bien fini.
Bien sûr,
on s'est juste rendu compte quand on était tous persuadés de s'être déjà posé la question l'un à l'autre, alors que non, jamais.
Oui, j'étais persuadé que je l'avais dit.
C'est effectivement, en remontant la conversation Discord, tu me disais... Tu m'avais dit hommage au manga, mais sans préciser que du coup... Mais oui.
Donc, du coup, c'était pas une demande du brief. Nous, en tout cas, c'était pas du tout une demande. Et en fait, à partir du moment où tu t'es dit, bah non, c'est en noir et blanc, on a tous fait, c'est une trop bonne idée. Donc, c'est pas notre idée, c'est la tienne.
Après, c'est vrai que je m'étais tellement convaincu que ça allait claquer que je me suis dit, ah, c'est vrai. Après, je me suis dit, ah merde, j'espère que les gens vont pas trouver ça nul, quoi. Ah mais bon. Moi, autour de moi et un peu sur Twitter, j'avais l'impression que...
L'accueil est bon, là. On a encore eu un message, là, ce matin, qui disait que... en fait... Moi, d'un point de vue au-delà de l'artistique, de plus d'un point de vue commercial, je me dis, est-ce que du noir et blanc chez un marchand de journaux, est-ce que ça va ressortir, est-ce que ça va pas paraître fade? Et je pense pas, en fait.
Ah non,
je pense que ça va claquer, ça va claquer, ça va claquer.
Si tout le monde faisait pareil, oui, on aurait.
Oui, mais là, ce serait l'étalage journaux du matin. Quoi.
C'est ça.
Mais non. Donc effectivement.
Mais donc c'est pas notre idée de départ,
c'est vraiment toi. C'est moi, ouais. J'assume, je suis.
Et c'était une excellente idée, et je m'excuse encore de ce message maladroit. Qui en fait voulait avoir la certitude mais qui aurait pas dû être posé de cette matière là.
stress qui s'est bien fini.
Bon, bah merci. On va commencer à dérouler un peu le magazine.
Mais bien sûr, on parle direct du dossier de couvre.
Ah bah oui, tant qu'à faire, ouais. Oui, oui.
Bah, donc on a quand même un gros dossier de couvre ce mois-ci consacré à Akira Toriyama. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de rubrique histoire ce mois-ci.
Ouais, ça agglomère tout en fait.
Parce que voilà, on a pris la place qu'on pensait que ça méritait. Kevin, tu commences par un gros dossier, un gros papier où tout simplement tu reviens sur la vie d'Akira Toriyama.
Une biographie, parce que effectivement moi, j'ai aussi grandi, alors plus avec l'animé, même si j'ai découvert, enfin j'ai lu les mangas après, mais pour moi, enfin, Toriyama, c'est le mercredi matin, l'épisode de DBZ, le petit-déj devant, quoi. Ouais. Bah, mais je m'étais jamais vraiment penché sur sa carrière. J'avais vu d'autres choses, etc. Mais c'était très intéressant de relire ça. Donc, je me suis plongé dans pas mal d'archives et je tiens à remercier William Oduro, oui. Qui a écrit un super bouquin chez Pixel Love qui s'appelle Akira Toriyama et Dragon Ball, l'homme derrière le manga, sur lequel je me suis beaucoup appuyé.
Que t'as entièrement repompé.
Alors, pas exactement non plus.
Oui, il y a eu ChatGPT entre les.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'était intéressant. Mais après, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'analyses aussi de l'œuvre dans son livre, le rapport à la nature, etc. Moi, c'était vraiment, je voulais pas rentrer dans ces considérations-là. Moi, je voulais juste parler un peu de, en fait, ce qui m'a intéressé. D'ailleurs, c'est sur ça que je commence, c'est qu'au début, en fait, du bouquin et en lisant d'autres interviews, parce que l'homme était rare malgré tout médiatiquement. Il s'était oui. Très vite, il s'est enfermé dans une sorte de manoir bunker. Il était, il aimait pas trop les gens de manière générale. Enfin, il était pas à l'aise en compagnie des gens. Il a vécu quasiment toute sa vie à la campagne, et quand il devait aller à la ville, c'était vraiment contraint et forcé. Donc assez peu de matière à exploiter, mais malgré tout, il y en a. Et moi, ce qui m'avait beaucoup intrigué et plu au moment où j'avais commencé à me renseigner et à lire des choses, c'est le côté... j'ai eu l'impression que ça allait être la pire success story que j'ai jamais vue, parce qu'il y a ce jour où, en fait, il est au chômage parce que son boulot, il l'a quitté parce qu'il se faisait chier. Il vit chez ses parents. Ses parents ont un peu honte de lui parce que, bon, avoir un gamin de 25 ans qui fout rien de ses journées, il lui demandait de même plus sortir dans la rue pour pas que les autres familles voient qu'il foutait rien.
On est à la fin des années 70. Hein,
c'est ça. Et lui, il clope beaucoup et il commence à plus avoir beaucoup de sous pour s'acheter ses cigarettes. Alors il se dit, je vais faire un concours de dessin pour Jump, pour essayer de faire figurer un manga. Mais bon, il n'a pas envie d'écrire d'histoire. Lui, il aime bien juste dessiner, reproduire des trucs, quoi. Et je me dis, putain, Vous imaginez l'histoire si vraiment sa carrière elle a démarré parce qu'il a remporté un concours avec un dessin qu'il voulait à peine faire juste pour s'acheter ses clopes. Et donc en fait ce point de départ m'a un peu amusé et en creusant donc on se rend compte que en fait il l'a complètement foiré ce concours et ça l'a vexé et du coup il s'est mis à bosser et là on retrouve un peu tout ce qui fait le sel de presque de Dragon Ball, j'ai envie de dire, ce côté, le Neketsu, la volonté d'y arriver, de s'entraîner dur. Donc voilà, je suis parti vraiment de ça pour raconter sa vie et ses premiers succès, ses premiers échecs, la manière dont sa carrière a été catapulté en quelques semaines à peine en fait. Ouais. Dr. Slump, c'est un succès fulgurant où il passe de l'anonymat total à la célébrité, mais ouais, je pense, deux mois, je pense. Oh,
c'est incroyable.
Et voilà, donc on déroule tout ça.
On découvre quand même, j'ai beaucoup ri à la découverte de Mysterious Rain Jack, un de ses premiers mangas,
ouais,
qui date de 78 et qui mélange juste l'inspecteur Harry et Star Wars.
Ouais, disons que gros fan de cinéma et. Une sorte d'agrégateur géant, ouais. Toriyama, hein. Et agrégateur à la fois de choses orientales et occidentales. De toute façon, si Dragon Ball c'est le voyage en Occident, à partir de Dragon Ball Z, c'est Superman. C'est vraiment la même histoire que celle de Superman. Donc il y a toujours ça à raconter. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu de revenir un peu sur toutes ces premières œuvres, on parlait nous de Tomato.
Oui. L'inspecteur Tomato.
Ouais, Akai Tomato. Qui c'est une sorte de one shot qui fait un peu avant Dr. Slump avec une fille qui ressemble très pour très à Bulma, hein,
oui.
On va pas aller, qui est une jeune policière un peu maladroite. Il y a déjà un goût pour l'absurde que j'aime beaucoup et d'autres choses que j'aime moins au niveau de l'obscénité.
Voilà, des blagues de petites culottes
et tout ça. Non mais parce que je reviens là-dessus parce qu'on parlait tout à l'heure du côté fainéant. C'est pas tant de la fainéantie, c'est plus une sorte de manière de. Enfin. On l'observe aussi côté jeu vidéo, c'est-à-dire que la série Dragon Quest, dont on parle un peu après, sur laquelle il est crédité comme directeur artistique d'un bout à l'autre, je suis curieux de savoir combien de temps ça lui a pris pour chaque épisode, parce que effectivement les personnages semblent un peu interchangeables. Le bestiaire, il l'a fait pour le 1, il l'a décliné au gré des améliorations technologiques. Donc voilà. Bon, j'ai un peu skippé du coup le côté parce que après la biographie, on revient sur justement son impact dans le jeu vidéo plus concrètement à travers Dragon Quest, Chrono Trigger notamment et d'autres jeux un peu moins connus sur lesquels il a bossé, que ce soit de manière très concrète, genre Tobal,
oui.
sur PS1, où là il avait fait tout le roster de personnages, c'était un jeu de baston.
Il y a même carrément un personnage qui le représente lui.
Ouais, sous sa caricature avec le masque.
Le petit bonhomme au masque à gaz.
Ouais. Et plus dernièrement, il avait. S'était amusé à faire des personnages inédits dans pas mal de jeux de baston, Dragon Ball ou le Jump Force. Voilà. Donc ça, on parle de ça dans un second temps. Et ensuite, c'est Abubu.
Et ensuite, c'est Abubu, effectivement.
Qu'est-ce que... Quoi ?
Bonjour !
Oui, j'ai... Ouais, plus jamais, hein, je ferai plus jamais ça, mais j'ai essayé de...
Quoi, t'as dû parler à des gens et ça, t'as pas aimé ?
Non, mais les gens ne veulent pas parler, c'est énervant. mais ouais, j'ai essayé de recenser un peu tous les hommages qu'il y a pu, que la mort de Toriyama a pu susciter, quoi. Donc, moi, j'ai repioché des choses qui avaient été publiées assez rapidement, mais qui étaient plutôt chouettes, et notamment les créateurs de One Piece ou de Naruto, donc qui étaient, je pense, intéressants à remettre pour
c'est
ceux
pour
qui...
eux, c'est le maître, quoi.
Oui,
c'est vraiment c'est ça, c'est le maître.
Donc, c'était intéressant, je pense, à remettre pour ceux qui n'avaient pas forcément vu passer ça. Et puis, j'ai quand même réussi à récupérer quelques témoignages de développeurs chez Dontnod, Focus, donc nos amis
chez Platinum
français
Games.
Et chez Platinum Games, avec Johan Guerito qui nous a fait un superbe hommage.
Dans lequel je me suis beaucoup reconnu aussi.
Oui, bah, je pense qu'il cristallise pas mal de...
Bah, c'est quelque chose de très générationnel.
Et j'ai reçu aussi un témoignage que j'ai pas pu publier.
Ah,
voilà.
Oui, bien sûr. Parce, qu'il a, oui.
Parce que bah, la personne m'a dit... Enfin, se sentait pas... légitime, disons, alors que bon, moi je trouvais son témoignage très chouette, mais bon, il a préféré ne pas me. Enfin, que je ne le publie pas, donc j'ai ça sous le coude, quoi.
Ouais, bah c'était important parce que c'est vrai qu'il y a eu des messages très forts. Bah, moi j'avais vraiment été choqué par celui de Matsuyama, donc le PDG de CyberConnect2, avec qui. Enfin, qui fait beaucoup de jeux autour des adaptations de manga et qui est dans la vie, pour ceux qui l'ont déjà rencontré peut-être ou qui ont déjà vu des vidéos de lui, c'est quelqu'un d'extrêmement extraverti. Il fait toutes les conventions, même à Japan Expo, où il vient et il se grime, il est en cosplay, il harangue la foule. C'est vraiment quelqu'un qui a une sorte de bombe énergétique sur deux jambes et de lire un témoignage d'une noirceur et d'une gravité comme ça, ça m'a vraiment touché.
Bah, c'est ce qu'il explique, c'est que lui il a pas pour habitude de se laisser abattre par les choses tristes de la vie, quoi, et que là ça l'a submergé et il a pas pu faire autrement que de dire on arrête de bosser.
Ouais, il a fermé son studio.
On se retrouve lundi, quoi.
Ouais, c'est ça. Il a décrété un deuil entrepreneurial.
Oui,
ensuite, on a Arnaud.
Oui.
Arnaud, il a parlé. En fait, il voulait s'intéresser. Ça va t'intéresser aussi au prime. Il a voulu s'intéresser aux bestiaires, en fait, et au monster design de manière plus générale. Page 44 et 46, si tu es perdu. 44 et 45. Il parle un peu de... Donc, il parle, bien sûr, du slime, la créature emblématique de Dragon Quest, mais aussi donc, tout ce qui va être un peu dinosaure, dragon, avec Shenron, évidemment. Il faut savoir que Toriyama était un vrai, vrai amoureux des animaux. Enfin, il en parle. Enfin, il disait toujours que. En plus, même sa famille en fait avait cette réputation-là dans le village d'être une sorte d'arche de Noé, de recueillir tout ce qui passait, les oiseaux, les chats. Donc, il a grandi au milieu d'animaux, et c'est pour ça qu'il prenait autant de soin à les faire, à la fois des animaux, animaux, mais aussi des personnages anthropomorphes. On parlait de la tour Karine, Maître Karine, voilà, une sorte de vieux chassage.
Un vieux
chassage. Oolong, tous ces personnages.
C'est génial.
Comment elle a un nom, cette tortue, la tortue géniale, celle qui est toujours dépitée par tortue géniale, justement.
C'est pas
oui,
ça.
Oui, c'est vrai.
Je pense qu'à partir de maintenant, elle va s'appeler Christophe.
Voilà, appelons-la Christophe. Elle a le même sens de l'humour. Ensuite, on a un papier qui revient plus sur les jeux vidéo Dragon Ball. On avait Jules qui est devenu très vite une sorte de spécialiste de la baston, parce que nous on est nuls.
Oui, ouais.
On a Sanakan, mais qui a d'autres choses en tête en ce moment et un autre job, donc elle est plus trop là. Mais c'est vrai que nous on est nuls en baston, donc lui il a pu vraiment parler de la manière dont les jeux de baston Dragon Ball ont évolué, ont marqué un peu la scène compétitive. Et il termine, ça c'est un truc que je lui avais demandé parce que je trouvais ça drôle, de parler aussi des jeux Dragon Ball qui ne sont pas de la pure baston. Et c'est l'occasion de parler de Dragon Daikyo, qui est donc le jeu de 86 sur NES, qui est un bon gros nanar assez célèbre, rendu célèbre par une vidéo du joueur du grenier d'ailleurs, je crois, avec où il se passe beaucoup de choses On n'a pas l'impression que les gens qui ont fait ça connaissaient Dragon Ball à la base, quoi. Et donc,
bah, disons
voilà.
Qu'il y a un petit bonhomme sur un nuage, quoi. Voilà.
Ouais, non, mais il y a... Et puis je crois que la trad française n'aidait pas, quoi. Je crois que ils appelaient ça les balles du dragon ou des trucs comme ça.
Bah, j'imagine, oui.
Donc voilà. Voilà pour ce dossier, en tout cas.
Donc ça nous fait quand même un bel hommage. Je pense qu'on est tous... Non, mais tous et toutes... j'allais dire content de quand même d'avoir réussi à...
Oui, bah c'est ce qu'on avait dit au début, ouais, c'est
d'une
ça.
D'une façon en tout cas digne, on espère. Et
oui.
Pas juste
et puis sans tomber non plus dans la pleurnicherie, on voulait faire un truc un peu dynamique et puis voilà, célébrer l'œuvre et l'influence surtout, quoi.
Oui. Et bien, très bien, écoutez.
Et si nous reprenions,
qu'y a-t-il d'autre dans ce magazine?
Plein de choses.
Regarde, on a complètement une autre ambiance. Des hackers qui s'invitent à un tournoi officiel d'Apex Legends.
Ouais.
Ce sont des choses qui arrivent.
Ouais, bah l'histoire est assez folle et le côté un peu... la communication derrière est assez marrante à étudier. Donc c'est Louis qui revient sur ce qui s'est passé en live et sur les conséquences que ça a pu avoir derrière le...
Pour la petite histoire, j'ai un grand joueur d'Apex Legends à la maison.
Ouais.
Et dès qu'il y a eu ces histoires de c'est hacké machin, bah il y a eu interdiction de lancer le jeu parce que je commençais à voir passer des trucs comme
ouais.
quoi
bah,
c'était un composant de anti-tri justement qui avait été hacké et qu'il pouvait s'infiltrer chez tout le monde. Et en plus, on a commencé à dire que peut-être ça touchait tous les jeux qui utilisaient ce processus en particulier. Donc, moi, chez moi, pendant 3-4 jours, j'étais en train de flipper à dire « Non, on n'allume pas la console, tu joues surtout pas à Apex, tu joues pas à Fortnite, tu joues à rien, parce que je flippe trop et je veux pas qu'on touche à ma console. » Il se trouve que non, tout s'est bien passé, c'était pas du tout le
cas. Non, mais le fait que ce soit arrivé en plein tournoi avec tous les streams et tout, c'est... Bon, Ça la fout mal, on va
ça
dire.
Ça la fout mal, exactement. Mais donc, vous pouvez relancer Apex Legends, hein, c'est bon, vous ne serez pas hacké. Moi, j'ai eu peur. Tiens, si je vous dis Blectre.
Incroyable.
Ça vous dit quoi?
Jamais entendu parler.
T'avais jamais entendu parler de ça? Bah, je pense que le papier t'intéressera, parce que ça... Enfin, moi, on est tous unanimes, je pense, autour de la table, pour dire que c'est un super papier, parce qu'on a découvert quelque chose, c'est vrai qu'on était passé à côté.
Ah oui, complètement.
Donc, qu'est-ce que c'est Blectre? Donc, c'était un jeu navigateur sorti en 2007, qui était un truc... vraiment dégueulasse. mais dégueulasse et assumé. Je veux dire, c'était quelque chose de vulgaire, d'obscène. L'idée étant de faire quelque chose de une sorte de geste punk comme ça. Et il se trouve que cette année, ce Blectre ressort dans une version qui s'appelle Blectre 2081. Et donc Louis a pu s'entretenir avec le créateur, en tout cas l'instigateur de ce projet, et donc revenir à la fois sur le pourquoi du comment de l'époque et de tout ce qui a pu évoluer à la fois dans le jeu mais aussi dans la société. Et c'est assez intéressant de voir à quel point toutes les choses les plus ignobles qu'il pouvait y avoir dans le jeu de 2007, la manière dont il a voulu absolument les effacer dans une sorte de mea culpa, et en même temps se dire que si les gens de la première heure n'aiment pas ça, et ben qu'ils aillent se faire voir, en
voilà. Notamment tout ce qui concerne le sexisme, tout ce genre de choses.
Voilà. Et du coup, l'histoire est folle. Ça part même dans des directions assez inattendues. Et donc, c'est un super papier et une super, super petite histoire, j'ai envie de dire. On disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'histoire.
Il y en a une petite.
Il y en a une, elle est ramassée sur deux pages, mais elle est vraiment passionnante.
Un peu une sorte d'histoire aussi. Nits Island, un documentaire tourné entièrement dans...
Daisy,
oui, c'est ça, je ne trouvais plus le nom, merci.
Si, ouais.
C'est Arnaud qui a été interviewé les créateurs de ce documentaire.
Ouais, bah, je vais laisser la parole à Bubu sur ça.
Ouais, trois Français, en fait, qui se sont vraiment immergés dans le jeu et qui sont partis à la rencontre de différentes communautés donc dans le jeu, quoi. Et bon, le long métrage est incroyable. Enfin, je pense que c'est le plus beau docu de l'année. Je ne sais pas si on en aura un plus beau, mais c'est assez dingue, quoi, parce que à la fois, ça joue vraiment sur le côté tendu du jeu où tu sais que tu peux te prendre une balle à tout
chaque
moment.
Chaque
rencontre, c'est vraiment c'est un western, quoi. Et donc, Arnaud parle un peu de tout ça et à quel point. Enfin, ce qui est fort, c'est qu'ils font un vrai docu et en même temps, tout est complètement virtuel, quoi. Mais
le jeu est jamais cité dans le film, c'est ça ?
Le jeu est jamais cité, je crois. Ouais, on a l'impression d'être vraiment dans un autre monde, en fait. Ouais. Et ce qui est fort dans le jeu, c'est que, enfin, dans le film, c'est que tu sens que les joueurs vivent vraiment dans ce monde-là et ils sont complètement déconnectés du vrai monde, peut-être, quoi. Et enfin, il y a un truc, on a l'impression d'être vraiment ailleurs et ça crée un trouble vraiment assez fascinant, quoi.
Où est-ce qu'on peut voir ce film ?
Il sort au cinéma, il est sorti, je crois, là. Le 16 avril,
j'imagine,
comme
dans
ça.
Partout, quoi.
Ouais, je pense qu'il a peu de copies en salle. Il est peut-être déjà limite plus visible.
Donc, il s'appelle Knit Island, donc K-N-I-T apostrophe S Island.
Il sera, on l'espère, dispo plus facilement sur certaines plateformes, j'en sais rien. Si vous avez l'occasion de voir ça, c'est assez génial, quoi.
Yes.
Toi, tu l'as vu au cinéma ?
Non, je l'ai vu.
On a eu accès. En fait.
Arnaud avait un lien, quoi.
D'accord.
Et voilà, je l'ai vu comme ça.
Non, c'est vrai que c'est très inédit comme démarche.
Ils avaient déjà fait quelque chose avant du même ordre. Hein.
Ouais, il y avait un réal aussi qui avait fait
autour de PUBG.
Même sur GTA, je crois.
Oui, avec GTA, ouais.
Il y avait un réal qui avait, mais c'était pour le coup une fiction, mais en reprenant que des images de jeu. Là, il y a vraiment, c'est
ça. Docu.
Enfin, les voix que t'entends, c'est les mecs qui parlent à travers le
jeu. Agnès Varda dans DayZ, quoi.
C'est pas du RP. C'est des gens qui.
Non, c'est vraiment des gens. Mais où parfois tu sais pas à quel point c'est les ils restent malgré tout dans leur rôle ou non. Enfin, il y a une scène qui est incroyable, ils arrivent dans une pièce et t'as un mec qui est nu sur une table. Et du coup, la première chose que les mecs disent, c'est qui ce mec-là ? Et la bonne femme lui dit, enfin, la femme en face leur dit, non, vous inquiétez pas, c'est mon jouet. Et fait, on pourra le manger à la fin si vous voulez. Et voilà, et l'interview part là-dessus. Et c'est incroyable.
D'accord, oui.
Non, mais oui. Enfin, le lore de DayZ, enfin, le lore émergent de DayZ est fantastique. Pour le peu de temps où moi j'ai passé, j'ai vécu aussi des moments incroyables. Donc, ça m'étonne pas. Yes.
Oui, tournons la page. Hein. Écoutez, c'est assez compliqué d'enchaîner.
Oui.
Rapidement, oui. Ouais. Jules se demande comment les jeux qui ressemblent à Vampire Survivor, comment on appelle ce genre de jeu,
à part des
Vampire Survivor-like.
C'est un article sous forme d'interrogation et c'est marrant. Et d'ailleurs, je pense que la personne qui monte ce petit podcast,
l'intéressera.
Ça l'intéressera parce que c'est une question qu'on a sur laquelle on a souvent débattu. Au niveau de la dénomination des genres de jeux dans le jeu vidéo, avec des mélanges qui empruntaient un peu partout, il y a un peu de cinéma, il y a un peu de machin, on ne sait jamais trop comment. Et on arrive à des absurdités où, je ne retrouve plus exactement le terme, comment ils l'appellent je ne sais plus, enfin bon, faudra lire l'article, mais justement le créateur d'un. Ouais, je crois que c'est ceux de Balatro, en fait, qui. Voilà, c'est ça. Deck Builder Roguelite. Voilà, on arrive à ce genre de dénomination pour caractériser les jeux. Et donc voilà, bon, après, c'est pas grave. Hein, c'est quelque chose de presque très geek, justement, d'essayer de. Et c'est une facilité très journalistique aussi, pour présenter un jeu, de dire, c'est un mix entre ça et ça, et du coup, on peut rappeler ça un machin. Voilà.
Le seul autre milieu du même acabit, c'est quand c'est les groupes de métal.
Oui, c'est ce que j'ai.
Moi, ça me semble normal, du coup.
Non, mais c'est. Bon, disons que c'est pas grave, mais c'est une question qui nous turlupine un peu.
Mais donc, a priori, on dirait plutôt un auto-shooter pour les jeux à la Vampire Survivor. Restons là-dessus.
Ça va.
Ça me paraît pas mal. En dernier, on a Marion Bardiaki, Yamoukas, qui nous a écrit un petit papier sur un jeu qui s'appelle Threshold.
Ouais, en projet.
Un jeu qui reprend une esthétique très low poly, très première PlayStation.
C'est ça. Donc, elle a pu rencontrer le concepteur de ce jeu, qui s'appelle Julien Éveillé, qui mène ce projet sur son temps libre pendant qu'il bosse chez Crytek sur un projet. Donc, que nous, on nomme Crysis 4, et après, on s'est demandé, mais est-ce qu'il a été officialisé, ce projet de Crysis 4? On ne sait pas. Donc, ça se trouve, on a une exclue mondiale. Et j'avoue que, c'est en parlant avec Jika.
Putain, mais on va se prendre un procès, c'est ça que tu es en train de dire? C'était notre dernier numéro.
Mais là, tu sais, je dis ça, et Jika, il me fait, mais Crysis 4? Je fais, bah oui. En fait, peut-être que... Enfin, je sais pas. Écoutez, soit on a une exclue, soit c'est notre dernière émission parce que...
on va
une armée de...
Eh bien, très bien. Moi, j'aimais bien. C'est con, moi, j'aimais bien. J'ai vu le mail.
Bon, parle-nous du papier suivant, on va.
Ah, évidemment. Un jour, j'ai reçu un MP d'Héloïse Linossier. Il y avait quatre mots. Enfin, vraiment, une poignée de mots où elle m'a juste envoyé un message qui disait « Samantha Béard en portrait ». C'est tout. Et j'ai répondu... Oui, 12 pages plus un poster. Ça, c'est l'intégralité de notre échange. Qui est Samantha Béard? C'est la personne qui double Carlac dans Baldur's Gate 3 et que, Héloïse a eu la chance d'interviewer pendant une heure et elle nous fait donc du coup le portrait ce mois-ci, 4 pages sur son parcours.
Yes.
Et bien évidemment que j'ai reçu ensuite des tas d'autres messages d'Héloïse qui disaient qu'elle avait de quoi me faire pour de vrai les 12 pages et qu'il fallait en se contenter des 4. Mais c'est apparemment une personne qui est aussi sympathique dans la vraie vie qu'elle en a l'air sur les réseaux sociaux.
Ah, je crois que le personnage de Carlac.
Et le personnage de Carlac aussi.
Bon, moi, elle a des cornes, donc. Quelqu'un qui a des cornes, en général, je trouve sympathique.
Oh, mais je pense que c'est un personnage qui te plairait beaucoup. C'est ce qu'on appelle la Golden Retriever Energy. C'est vraiment. Je sais pas, au prime, si toi, t'as joué à Baldur's Gate.
5 minutes. J'ai vraiment envie de dépasser mon blocage parce que c'est pas du tout de style de jeu auquel je vais.
Ouais.
Mais je vois bien ce qui s'est déclenché chez les joueurs et j'aimerais bien le vivre. Ah, donc je vais essayer de me faire un petit peu violence parce que mais je sens bien que je passe à côté.
Faudra 10 mecs en beat'em up 2D. Voilà.
Non mais ouais, c'est fou les retours que j'ai entendus de cette expérience-là.
Ouais, ouais. Mais oui, non, c'est vrai. Bah, ça fait partie de ces des gros jeux comme ça, presque générationnels.
Ah oui, ouais, ouais.
Qui dépassent... Il y avait eu le Elden Ring un peu l'année précédente, et puis sinon, ouais, Skyrim.
C'est de cet acabit-là, quoi.
Ouais.
Mais donc, ouais, Carlac, la Tiefling, un des personnages les plus aimés des personnages jouables. Et donc, Samantha, du coup, raconte son parcours, comment on devient actrice. Trigger warning, c'est une personne non-binaire. Tout l'article est écrit en écriture inclusive. Si vous êtes allergique, déjà, normalement, vous ne devriez pas lire JV. Puis, vous irez vous faire cuire les fesses. Voilà. Comment la carrière, choisir le métier d'acteur, d'actrice à Londres, comment arriver dans le jeu vidéo, comment devenir célèbre en un claquement de doigts, parce que c'est assez rare quand tu travailles dans l'industrie du jeu vidéo, enfin dans le doublage, d'accéder à la notoriété. Ces dernières années, peut-être un peu plus, on met un peu plus en avant les personnes qui font un peu les voix dans les jeux vidéo.
Ouais.
Mais là, il faut vraiment avouer que tous les acteurs et les actrices qui ont fait le doublage de Baldur's Gate, là, d'un seul coup, sont vraiment sur le devant de la scène. Et ce que Samantha raconte, c'est que, en fait, il savait qu'un mois après Baldur's Gate, allait sortir voilà, ce jeu qui vraiment a éclipsé tout le monde. Mais si.
Donne-nous des indices, parce que là, je vois plus.
Non, mais c'est. Horrible, je déteste quand mon cerveau me fait ça et que je suis en train de friser complètement. Ben si, le jeu qui devait justement bouleverser tout le monde, bien
Starfield.
Sûr, et évidemment, Starfield,
ah, oui,
et qui devait tout déferler. Et du coup, toute l'équipe de Baldur's Gate était là, on a un mois pour y aller à fond, il faut qu'on soit sur les réseaux sociaux, il faut qu'on soit sur Twitch, parce qu'après Starfield va sortir, et on n'entendra plus parler de nous. Bon, bah, du coup, mais ce qui expliquait le fait qu'ils étaient tous et toutes très présentes sur les réseaux sociaux.
C'était aussi pour occuper le terrain.
C'était pour occuper le terrain. Et du coup, bah, ils avaient toute la place parce que je pense que c'est, même sans ça, Starfield a pas eu la vague escomptée derrière.
C'est un... Il est... Enfin, je veux dire, il était nulle part, quoi. Starfield, il a vraiment disparu aussi vite qu'il est venu.
Tu vois, et notamment de ma tête.
Enfin, aussi vite qu'il est venu, non, parce qu'on l'a attendu. Enfin, il a été attendu longtemps, mais c'est vrai que, genre, dans tout ce qui était top, awards et tout, jamais, quoi.
Nulle part.
Bref.
Mais, et du coup, elle termine sur un podcast qu'elle a créé qui s'appelle
It Takes a Village,
merci, où elle parle vraiment de toute son expérience et de comment sont faits aussi, qui parle de l'industrie du jeu vidéo et de choses un petit peu plus larges comme ça.
Très bien.
Et comment on vit derrière, ça doit être aussi, je pense que ça doit marcher pour pas mal d'acteurs ou pas mal d'actrices ou de personnes artistiques où d'un seul coup t'as un gros succès, tu deviens très célèbre. L'après, qu'est-ce qui se passe derrière? Comment tu... tu vois, être un one-hit wonder et de pouvoir continuer derrière.
On en parlait un peu avec... un degré moindre, parce que même si nous, on a adoré le jeu, je pense pas qu'il a il a pas le même retentissement, mais Manon Gage, c'est un peu le même profil, ouais.
Elle continue, elle a streamé régulièrement.
Ah oui, Manon Gage,
elle est... très active sur Twitch.
C'est marrant, parce qu'elle... elle connaissait assez peu le jeu vidéo avant, et du coup, elle a toute une culture à rattraper, et du coup, c'est assez drôle de la voir découvrir des choses en live. On passe aux critiques.
Alors, quelle est critique? Ce mois-ci, on a Open Roads, qui, pour une fois, porte bien les contre-avis sont de vrais contre-avis. Les gens ne sont pas d'accord.
On a un bubu un peu seul.
Toi, t'as bien aimé, bubu.
Seul contre le monde.
Et oui. Prenez pas en compte les autres avis.
lisez pas la page 55.
Non, en plus, je suis d'accord avec ce qu'ils disent, mais...
c'est qui, c'est Arnaud et Olivier.
Les défauts, pour moi, sont pas du tout gênants par rapport au reste, quoi, mais... voilà.
Mais moi, je te crois.
Écoute, ici, on te croit.
Nous.
Par contre, t'as pas trop aimé Princess Peach. Tu t'es fait chier.
Et ça, j'ai l'impression que c'est assez unanime.
Non.
Décevant. On a Rise of the Ronin. Là, c'est toi, Kevin.
Ouais. Le jeu est plutôt sympa, hein, mais mon sentiment reflète vraiment quelque chose du jeu dont la majorité du public, je pense, se fout. Éperdument. Je laisserai les gens découvrir. Après, c'est pas un jeu désagréable du tout. Hein. C'est juste que moi, il y a un truc qui m'a attristé dans le jeu. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit visage.
Tiens, t'en parlais tout à l'heure au Prime Dragon's Dogma 2. Toi, tu disais que t'es en train d'y jouer.
Ouais.
Eh bien, écoute, on a Arnaud dans l'équipe qui a pas trop aimé.
Ah, on peut même dire qu'il a
détesté.
Ah ouais.
Toi, ça va?
Moi, je suis un joueur vraiment particulier, donc je suis capable d'adorer les nanars de jeux vidéo.
Ouais.
Mais moi, je découvre la licence.
Oui, t'as pas fait le 1, t'avais pas joué.
Non, pas du tout. Et puis, en fait, il y a un truc que j'adore dans ce jeu qui fait que je passe à travers tous les défauts possibles. C'est que c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression de me balader avec des potes. Quoi.
Ah ouais.
Et en fait, j'avais jamais eu vent de cette mécanique de jeu.
Ok. Tu
balades à 4, 5. Et du coup, moi qui ai adoré The Witcher 3, j'ai l'impression de retrouver un petit peu cette vibe, mais cette fois, je suis pas tout seul.
Et y a faut que tu joues à Baldur's Gate.
Exactement, je sens bien la vibe du truc. Mais
ça.
Là, c'est vrai que ce sentiment d'être avec des potes, et puis je m'émerveille un peu du nombre de petites réactions que les PNJ vont avoir de l'environnement, des situations un peu... Alors là, j'en suis un certain nombre d'heures, ça y est, ça commence à répéter un petit peu.
Ouais.
Voilà, j'ai un peu fait le tour des enregistrements. Mais j'avoue, je me suis un peu fasciné par ça. Et il y a eu 2-3 moments de grâce en termes de découverte de décors.
Ça, c'est
assez
rare. C'est vrai.
Mais en fait, alors je peux le dire parce qu'apparemment, c'était dans le trailer. Mais moi qui découvre tout, j'ai pas vu un trailer, rien. Je suis tombé sur le sphinx du jeu par hasard. Et c'est un des moments de jeu vidéo quand même assez rare où tu, là vraiment tu te sens porté par un truc, en mode t'as l'impression d'être le premier au monde à découvrir ce truc là, avec tout un travail de mise en scène, la peur dans le ventre de qu'est-ce que c'est que ce machin, d'y aller tout doucement en mode qu'est-ce qu'il va me faire. Et c'est vrai que voilà, il y a deux trois moments comme ça, mais j'ai déjà entendu un petit peu les critiques, j'entends, c'est vrai que oui.
Non, non, mais enfin.
C'est pas un truc que je vais défendre corps et âme, c'est. Mais moi, c'est
bah, non, mais tu aurais bien le droit. Hein. Voilà. Non, non, mais. Enfin, moi aussi, même dans le 1, je trouvais l'univers génial, et là, j'ai envie d'y aller, mais c'est le système de jeu, moi, qui me rebute, et l'espèce de bordel permanent, en fait, moi, c'est qui me fatigue.
Ouais,
en fait.
Et trop, par contre.
Oui, c'est ça. C'est trop d'ennemis, trop de trucs.
J'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait confiance à leur propre décor.
Ouais. Moi, j'aime bien les jeux un peu vides, en fait.
Bah ouais. Tous les 10 mètres, ils se sont dit, non, mais ils vont se faire chier, les joueurs.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Là, imagine un Breath of the Wild avec un truc tous les 20 cm.
Putain, c'est trop bizarre. Ça, j'avoue, je pense que c'est un manque de confiance dans leur propre jeu, quoi.
Ouais, j'avoue que je l'attendais un peu et au final, je ne l'ai pas...
Ouais, toi non plus.
Oui, mais ça, c'est parce que tu es dans son 12e run de Baldur's Gate, tu n'as pas le temps.
C'est vrai.
Voilà.
autre ambiance, Balatro, Christophe Butler, il aime bien.
Ah bah, voilà. Oui. Bah, Gauthier, pour l'instant.
Non, mais c'est toujours compliqué parce que
c'est avec ce genre de jeu.
Ouais, c'est pas un jeu qui va changer ma vie, quoi, mais qui prend beaucoup de temps dans ma vie, malgré tout.
Ça change ton emploi du temps plus que ta vie.
Non, mais la mécanique est quand même géniale, et en effet, j'avais peur d'y aller pour ne pas sombrer dans une addiction, et bon, bah finalement, j'ai sombré.
Mais voilà, finalement, j'ai sombré.
Mais pour des bonnes raisons, en tout cas, j'ai l'impression.
Oui, on continue ensuite.
Bon, il y a...
Voilà, là, on a fait les principaux. Oh, tiens, si, on a un petit conso ce mois-ci. On va prendre 5 minutes pour en parler.
Juste avant de laisser la parole à l'auteur, je tiens juste à dire que c'est un article qui avait été soufflé dans le 36-15.
Eh ben voilà, comme quoi.
Il y a deux mois, quelqu'un a dit « Oui, si vous faisiez un conso sur Playdead », je dis « Bah tiens ». Et moi, je suis arrivé en conférence de rédac, j'ai une super idée, je l'ai eue là. Non, mais bah voilà, je ne sais plus qui avait posé cette question, mais
je leur remercie. Tu es exaucé. Pas,
mais voilà, mais si Christophe, regarde, tu as parlé de la Playdate.
Bah, il faut dire aussi que nous, on ne l'avait pas reçu à l'époque du premier envoi.
Oui, c'est vrai.
Et là, tu as reçu la bête.
Ouais, parce qu'on en avait parlé au moment de sa sortie, entre guillemets, parce qu'en effet, les envoi était limité, on n'en avait pas reçu, donc on avait demandé aux collègues qui nous avaient prêté une machine, donc on avait pu tester un petit peu. On avait fait le point après, je crois, un an après sa sortie, et là ça fait 2 ans donc. Et là j'ai pu recevoir la machine avant, donc j'ai pu lancer plein de jeux, donc j'en ai déjà sélectionné pas mal, mais ça a pris du temps, quoi, parce que il faut jouer à tout ça. Alors c'est souvent des jeux assez court, ou en tout cas des expériences où t'as pas besoin d'y jouer 3 heures pour voir où ça mène. Mais bon, il fallait quand même tout
lancer.
Parce que
là, du coup, tu nous as fait un beau dossier de 8 pages quand même.
Bah, y a pas mal de jeux, et puis j'en ai joué à plus que...
Ouais.
Parce que j'ai essayé de sélectionner ce qui me semblait le plus intéressant.
C'est vraiment le magazine du noir et blanc. Hein.
Oui, ça allait bien avec la couve, quoi.
Voilà. Là.
Ça t'intéresse, toi, la Playdate?
Ouais, je l'ai testé une seule fois, j'ai trouvé ça cool, moi j'aime bien les trucs qui changent, et en fait Root Beer, j'avais trouvé ça incroyable.
Ouais.
C'est... Mais je trouve que c'est impossible de concevoir le fun quand on n'y joue pas. C'est vraiment quand t'as la main dessus que tu dis « Ah mais d'accord, c'est vraiment...
Ouais.
Ça a vraiment du sens, quoi. » Mais quand tu vois les visuels ou que tu mates les trailers et tout, oui, tu peux vite passer à côté de l'intérêt du truc, quoi.
Donc, voilà.
Elle a la chance pour elle d'avoir un super design, enfin, et d'être
c'est vrai qu'elle est cute.
Le petit objet mimique,
elle
t'as
est
envie,
cute.
Voilà.
Elle est cute. Elle est cute.
Si je pense que vous êtes plusieurs à nous écouter et à être qu'on peut appeler des geeks, des gros nerds, évidemment qu'on aime bien les petites machines avec des petites manivelles, ça donne envie évidemment. Moi, c'est le Direct Drive qui me donne envie, là, le jeu dans façon années 20 avec le gramophone. Là, je pense que l'utilisation de la manivelle doit être vraiment cool.
Bah tu t'imprimes vraiment le mouvement du tourne-disque avec la manivelle.
Super idée.
Et du coup faut aller tourner plus ou moins vite pour rester calé, quoi. Donc
Je savais pas quand on pouvait un peu comme avec la DS profiter en fait de du design de la machine pour enfin que ça a un impact je l'ai découvert là quoi
il l'utilise quand même pas mal et puis bon oui il y a le nouveau jeu de Lucas Pope aussi oui. C'était oui. Un peu le
triple A,
le triple A,
le prétexte du dossier.
Oui, voilà l'occasion en tout cas de voilà. Enfin, c'est le jeu que tout le monde attendait dessus et
Mars After Midnight.
Et c'est plutôt réussi quoi.
En rejouer ce mois-ci, on va essayer d'aller de passer rapidement.
Ouais.
20 ans après, Sacred.
Sacred.
Sur PC. Et aussi petite couverture de canard PC avec de la nudité.
Oui, avec qui parlait de Singles, le clone coquin des Sims par Ubisoft.
Ouais, qui a fait un gros flop aussi.
Qui a fait un gros flop ouais. Et qui a.
Comme quoi, mettre des nichons, ça marche pas
toujours.
Et
qui a provoqué quelques mots douteux
ah oui.
Dans la presse à l'époque. Et non, donc oui, enfin, donc je parle de ces crimes. Et puis je parle d'Olivia Adriaco.
Oui, s'est demandé ce qu'elle devenait.
Et d'Ozone, Dragoustai Dintei. Voilà, c'était il y a 20 ans, il n'y avait que ça. Il y avait Sacred, un groupe qui chante en roumain de la pop roumaine.
Et Olivia Adriaco.
Et Olivia Adriaco, voilà.
Qu'on embrasse, évidemment.
Pense à elle.
En Try Again, Frostpunk.
Ouais. Fanny qui revient. Du coup, on n'en a pas parlé de ça. Est-ce que tu n'as pas été un peu énervé par cette lettrine?
Ah oui, si, bien sûr.
C'est marrant, je pensais à ça.
Bien sûr. Alors, normalement, la lettrine, c'est la première lettre d'un paragraphe, d'un article, et elle est souvent mise en gros.
En très gros.
Et c'est généralement. Alors, ne commencez pas, s'il vous plaît, amis journalistes, vos articles par un chiffre, par un nombre, parce que c'est chiant de mettre en lettrine
ou
un
par
nombre.
Une citation, parce que du coup, ça met les guillemets.
Je vais commencer tous mes articles. Comme ça. 8 novembre 2005.
Voilà. Et ben ça c'est chiant. Maintenant, ça je peux parce que j'écris 8 en lettres. Ah je m'en fous. Ça marche.
Non, ça marche.
Mais
pas
en l'occurrence, la première phrase, c'est le nom du studio qui s'appelle 11bit Studio. Donc je pouvais pas juste mettre un grand 1 et un petit 1 derrière. Donc j'ai mis le 11 en gros et ça m'a fait chier. Et c'est, voilà.
C'est raté. Ouais.
Désolé Fanny.
Tu es virée.
Non, mais ne recommence jamais ça.
Ouais, enfin, en tout cas, on revient sur Frostpunk parce que le 2 arrive bientôt. Et je pense qu'on en parlera, si ce n'est dans le 108, au moins dans le 109. Voilà. Donc c'était important de rappeler un peu ce qu'était Frostpunk et de redonner un peu son sentiment par rapport à ce jeu.
Le jukebox, est-ce que vous avez remarqué que j'ai changé la maquette du jukebox?
Bien sûr.
Oui. Est-ce que je l'aurais remarqué si tu ne me rappelais pas le jour où tu as dit « je change la maquette du jukebox » Mais si, oui. Oui, si, il y a plus d'images. Enfin, on voit plus les jeux.
On voit plus les images. J'ai changé. De temps en temps, ça m'arrive. Je me suis dit « tiens, j'en ai marre, je vais changer
la maquette ». On aurait dû mettre « nouvelle formule » ou plein, voilà, au plein milieu de la couve sur Toriyama. Un gros macaron.
Nouvelle formule. Donc non. Mais voilà, des fois, moi aussi, ça me prend. Donc,
bien sûr.
C'est sur la BO de Death Door.
Ouais.
En artbook, c'est Arnaud qui a été qui s'est intéressé sur le travail de Dio Maesa, ouais. Qui a notamment travaillé sur Coffee Talk.
Ouais, c'est Coffee Talk. Il adore Coffee Talk. Il en parle régulièrement. Et donc, mais on n'avait pas encore abordé sur l'angle purement artistique.
En director's cut, un director's cut de 4 pages.
Et ouais.
Christophe, c'est toi qui as
deux
intervenants.
Deux intervenants, ouais. Non,
et l'image la plus 80's. Basse def, la plus basse def ouais. Du mag. Hein.
Mais c'est en même
mais
temps.
Mais c'est la vraie. Enfin voilà. Ce n'est pas. Tu sais, c'était comment l'avertissement au début de la série télé.
Ne réglez pas votre téléviseur.
Au-delà du réel, voilà. Ne réglez pas votre magazine. L'image est fausse. Ouais. Normal.
Off to Mind. Je crois qu'on en avait parlé un peu dans le précédent podcast, mais. C'est un jeu assez fou parce que à la base c'est un film qui est abandonné par son réalisateur pour diverses raisons qu'il explique dans l'interview et qui est récupéré ensuite donc il s'allie avec un game designer pour en faire une sorte de immortality on va dire.
Donc un film qui a vraiment été tourné dans les années 80.
Un jeu FMV. Ouais, un c'est film vraiment tourné en
toutes les images, c'est pas des reconstitutions voilà.
Ouais.
Les gens pensaient vraiment être stylés.
C'est la mode de l'époque.
Mais ça revient un peu, ces vestes beaucoup trop larges.
Mais oui, mais carrément.
Ça revient, j'ai l'impression de voir plein de,
ah bah oui, oui.
plein de gens maintenant avec ça.
Mais évidemment, bien sûr. C'est toujours cyclique, la mode. Mais donc là, non, c'est des vraies images d'époque.
Bah, du coup, oui.
Qui donc ont été récupérées pour faire un jeu.
Et c'est vrai que, bah, du coup, ça donne une interview. D'habitude, dans ce genre d'interview, on demande comment. Et là, c'est plus pourquoi en fait. Mais en même temps, c'est hyper intéressant parce que bah, c'est vrai que c'est un projet comme on n'en a jamais vu.
Ah donc, bah ouais, non.
Bah, un truc comme ça, ouais. Enfin, donc, au final, le jeu ressemble à des choses qu'on a pu
ouais, bien
voir.
Sûr, ouais.
Mais oui, la genèse du truc. Et puis, bah, à la base, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout le jeu vidéo. Donc,
ouais.
Mais qui est.
Ça, c'est génial.
Qui est vraiment intéressé par ça et qui, bah, grâce à avec quelqu'un qui lui pour le coup le connaît mieux, bah, ils arrivent à créer un truc et non, enfin j'ai trouvé l'interview très bien. Si c'est moi qui l'ai fait.
Bravo Christian. Les questions sont super. En spoiler, ce mois-ci, Olivier revient sur Wolfenstein 2.
Ouais, The New Colossus.
Une scène où on voit Hitler pisser dans un seau, écoutez.
Oh, bien sûr.
classique jeu vidéo. Olivier, toujours, ce mois-ci s'intéresse de tout temps le double.
Ouais, avec...
belle idée, je trouve.
Ouais, c'est une super idée. Et avec du spoil.
Oui.
Mais bon. Si tu connais les jeux.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Enfin, si, ouais.
Mais non, super, super. Super papier.
En vue subjective, Alan Wake 2.
Voilà. Bon, en fait, voilà, parce que le mois dernier,
voilà.
Non, mais le mois dernier, il m'avait fait de la peine en disant du mal injustement de FF16. Donc, pour remonter dans mon estime, il s'est dit, je vais aller dire beaucoup de mal d'Alan Wake 2. Et là, j'applaudis parce que là, je n'aurais pas enlevé un mot.
Oui, je pense qu'il il synthétise tout ce que,
tout
ce qu'on a pu. Dire dessus.
Et voilà.
Eh bien, écoutez, et tout ça, ça fait un numéro 107.
Ouais.
Bah, bravo. Hein.
Bah ouais. Si on finit juste du hors-jeu où on parle du prochain album de Sia, voilà, il n'y a que ça qui est intéressant. Ouais.
Et la seule chose qui m'a rendu un peu triste, regarde, là, dans
oui.
le... On n'a pas pu faire Lonely Profane sur L'idée me plaisait bien. C'était de faire jouer à Botany Manor.
À quelqu'un qui n'a pas la main verte,
à quelqu'un,
ni la patience.
En fait, à quelqu'un, un joueur de Fast FPS, oui, par exemple.
C'est vrai
et
que
on n'a pas pu le faire.
On n'a pas pu le faire, on a fini un peu sur les rotules ce numéro. Mais,
ça m'aurait fait beaucoup rire.
Mais on fera une critique de Botany Manor.
On a fait le début en stream avec Christophe. Je pense qu'on va le continuer.
On continuera, oui.
Et puis on a qu'à aller déjà. Enfin, la rubrique n'est pas abandonnée, il y en aura une dans le prochain numéro. Oui, aussi dans le. Juste avant de nous dire au revoir, on félicite Furax parce
qu'on
en parle dans l'anti-sommaire à la fin.
Plus de 150 000 euros.
Voilà.
151 754 euros et 76 centimes qui ont été recueillis pendant le week-end de Furax. Donc l'événement, c'était la deuxième année que ce collectif organisait un week-end caritatif. Cette année, c'était pour l'association Les Féministes contre le Cyberharcèlement.
Ouais.
Le goal a été Explosax. Donc bravo les meufs. L'année prochaine, je pense.
Bravo les meufs, c'est ça qu'on dit.
Bravo. Quant à nous, on va se dire au revoir. Merci tout le monde d'avoir écouté ce podcast. Merci Alexandre d'être venu.
Bah, merci à vous, c'était trop bien.
Bah écoute, on est très contents. Et on est vraiment très contents parce que nous aussi, on pense que cette couve, elle claque.
Au-delà de cette couve, tu as une actu, peut-être quelque chose dont tu veux nous parler ou tout est secret.
Bientôt, ça fait un moment qu'on travaille et les actus devraient plus trop tarder, je pense.
Oh là là, ça tease. Ça toi aussi, tease. Tu bosses sur quoi, machin 4 sur
Crysis 4.
Bon bah voilà, c'est dit.
Putain, je suis pas sûr qu'il soit. Non mais. Autant dans le mag, des fois, on fait attention à pas mélanger la collusion, tout ça. Là, on peut le dire, hein, jouer à Ivo.
Ah, bah, ah oui, ah bah, jouer à Ivo.
Bah, bien sûr. Ivo.
Si, petit placement de d'event le 7 mai à la mairie de Montreuil avec l'asso Rix à laquelle je fais partie. On réorganise un gala de boxe.
Ah, cool.
Et pour une fois, c'est une réussite. Parité totale. 3 combats de meufs, 3 combats de mecs.
Ah, cool.
Voilà. Donc n'hésitez pas, Rix Club sur Internet.
Tu fais les affiches?
Non, c'est pas moi qui m'occupe de la com cette fois. Je vais faire un visuel décor qui sera projeté pendant l'événement.
Ah, cool.
Voilà. Je vais faire 2-3 trucs. Mais voilà, si vous voulez vous renseigner, c'est entre la boxe et le spectacle. Et il y a 6 combats amateurs.
C'est du catch, quoi.
C'est plus ou moins du catch.
Putain, je pensais t'énerver, je pensais t'en trigger.
Je serre les poings sur la table. J'ai pas le temps.
J'ai juste envie de couper l'enregistrement et que ça règle les comptes, là.
Ah, merde.
Non, bah, merci beaucoup, c'était super.
Dit-il, il a déjà mis son manteau.
C'est parti.
Voilà. Allez,
salut. Eh bien, merci tout le monde et on se retrouve le mois prochain. Voilà.
Au revoir.
Au revoir. Salut. Bye bye. Ciao.